On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien ce vendredi soir qui sent déjà un petit peu le week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque soir pour votre émission de confidence. Et ce soir, on va tous dire sur la musique classique. La musique classique qui n'est plus réservée à une élite. On l'appelait autrefois la musique savante, les gens qui savent. Aujourd'hui, tout le monde peut jouer, tout le monde peut l'écouter. Les festivals en France se multiplient, ils s'ouvrent à tous les publics. On va en parler ce soir avec vous qui êtes musicien classique, comme on dit, en amateur ou en professionnel. On va parler de l'enseignement de la musique à l'école, de la professionnalisation, de la musique classique pour tous et même pour les bébés. Vous êtes prêts pour 2 heures de musique classique? On va parler de musique et bien sûr, on va écouter aussi la musique de France Bleu.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Et ce soir, on se dit tout sur la musique classique et on va démarrer cette émission avec un chef d'orchestre. Il est au centre de tout, son métier est souvent méconnu et on s'est dit que ce serait pas mal d'en savoir un petit peu plus. C'est Christophe Mangou qui est avec nous sur France Bleu. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Avant d'être chef d'orchestre, on est d'accord, vous êtes musicien?
Oui, bien sûr.
Tous les chefs d'orchestre sont musiciens?
Oui, bah forcément. Ce serait difficile d'imaginer quelqu'un qui pilote, par exemple, un avion sans savoir comment marche l'avion. Donc là, c'est exactement la même chose. Un orchestre, c'est quelque chose d'assez complexe, même de très complexe, avec des musiciens et des instruments différents. Si un chef d'orchestre ne sait pas comment ça marche, ce serait difficile de piloter tout ça, on va dire.
Ça veut dire que vous êtes capable de jouer de tous les instruments ou pas forcément?
Ah non, pas forcément. Non. Ce qu'il est important, c'est il est important de savoir comment marchent les instruments, de savoir parler aux instrumentistes. Donc, c'est-à-dire de pas dire quelque chose, de pas proposer quelque chose à un instrumentiste qu'il n'est pas capable de faire parce que son instrument ne peut pas le faire. Oui. Donc là, pour le coup, ce serait une erreur. Donc, il faut bien connaître les instruments. C'est bien de savoir en jouer le maximum, mais en même temps, c'est pas obligatoire du tout.
Comment vous avez eu envie, vous, comment est né le désir de devenir chef d'orchestre?
Il est venu très tôt. À la base, je suis percussionniste, donc je faisais des percussions, je jouais des timbales dans les orchestres. Et comme dans beaucoup de répertoires, la percussion n'a pas énormément à jouer. C'est-à-dire que quand on joue, par exemple, une symphonie de Mozart, il n'y a pas énormément de timbales. Donc dans ce cas-là, je passais mon temps à regarder le chef d'orchestre. Et puis petit à petit, j'ai commencé à acheter les partitions de chef d'orchestre. Et je suivais, quand je jouais pas, je suivais la partition de chef d'orchestre pendant les répétitions, etc. Et c'est comme ça que le goût m'est venu. Mais très très tôt, vers 10 ans, je voulais faire ça. Et ça s'est concrétisé petit à petit jusqu'au premier stage vraiment que j'ai pris, au stage de direction que j'ai pris quand j'avais 17 ans.
Alors on a souvent l'impression, vu de l'extérieur, bien sûr, et puis comme on est là aussi pour expliquer, que le chef d'orchestre fait des grands gestes, mais que les musiciens savent jouer. C'est évidemment plus compliqué que ça, parce que c'est énigmatique pour ceux qui ne connaissent pas.
C'est vrai que c'est très complexe, c'est-à-dire que un chef d'orchestre, dans le cas en tout cas d'orchestre professionnel, en face de lui, il a des musiciens d'un excellent niveau qui sont tous capables de jouer et même ils ont tous évidemment une compréhension de la musique, ils ont tous leur manière de penser la musique et justement c'est à ça que sert avant tout un chef d'orchestre, c'est à rassembler les personnes autour de sa propre vision de l'œuvre. Si chaque personne avait son avis à dire sur l'interprétation, ce serait vraiment trop compliqué. Et donc c'est pour ça que le chef d'orchestre est là, c'est-à-dire que le chef d'orchestre, il est là pour donner la ligne directrice, pour emmener les musiciens, non pas pour leur dire ce qu'ils ont à faire, puisque ce qu'ils ont à faire, c'est ce qui est écrit sur la partition, mais plus comment ils ont à le jouer, dans quel caractère exactement jouer ce qu'il y a d'écrit, parce que ce qu'il y a d'écrit sur la partition, ce sont les notes, les rythmes, à la rigueur les nuances, mais quand on dit nuances, donc par exemple ça veut dire piano ou fort. Mais après, il y a 15 000 manières de jouer quelque chose fort.
Ça veut dire que un même concert peut être complètement différent selon le chef d'orchestre, selon l'interprétation qu'il aura envie de donner.
Absolument. C'est-à-dire que une œuvre sera différente selon les musiciens qui la jouent, selon le chef d'orchestre qui dirige et également selon l'humeur, c'est-à-dire que même avec un même chef d'orchestre et un même orchestre, du jour au lendemain, l'interprétation peut être sensiblement différente.
Mais vous changez, vous avez rarement les mêmes musiciens, comment ça se passe? D'ailleurs, quand on est chef d'orchestre, on est affilié à un orchestre en particulier ou ça bouge, ça change, les musiciens sont différents?
Alors, en fait, donc les orchestres professionnels, eux, ne bougent pas. dans le sens où il y a donc des musiciens qui sont attachés à l'orchestre et puis des fois des supplémentaires. Ceux qui tournent, entre guillemets, si je puis dire, ce sont justement les chefs d'orchestre. C'est-à-dire que quand on commence une carrière de chef d'orchestre, très souvent on commence en freelance. C'est-à-dire on tourne d'orchestre en orchestre, on est invité par tel orchestre, etc. Si ça marche bien, on est réinvité, etc. Donc justement, une des facultés importantes pour être chef d'orchestre, en plus de très bien connaître la musique, très bien connaître son métier, c'est d'être capable de s'adapter aux personnes qu'on a en face. On va travailler une semaine avec des personnes et la semaine d'après, ce sera des personnes d'un autre pays, avec une autre culture, avec évidemment un autre programme musical également. Donc il faut s'adapter à ça et effectivement, ce sont pas toujours les mêmes personnes qu'on a en face de nous.
Christophe, dernière question, je sais qu'elle est pas facile, mais quel est votre plus beau souvenir aujourd'hui en tant que chef d'orchestre ?
Moi, je voudrais peut-être parler d'un souvenir qui n'est pas forcément en tant que chef d'orchestre quand je dirigeais, mais j'étais assistant du London Symphony Orchestra, qui est un très très grand orchestre. J'étais assistant de cet orchestre et c'était un concert au Proms à Londres. Et l'orchestre jouait, le LSO jouait sous la direction de Sir Colin Davis, jouait le War Requiem de Britten, qui est une œuvre, donc un requiem pour la guerre. Et donc ça termine très très doucement avec vraiment dans une prière et j'ai vécu quelque chose et je ne suis pas le seul puisqu'on était environ 6000. Nous avons vécu après la dernière note de l'orchestre un silence d'au moins 5 minutes. C'est-à-dire que personne n'osait applaudir. On était tous partis au paradis, je sais pas où. C'était absolument
un moment suspendu, un peu comme ça. Et là, ouais.
Totalement suspendu. Mais en tout cas, un souvenir musical qui soit avant tout fondé autour du silence, c'est quelque chose que je trouve important et intéressant aujourd'hui parce que le silence, la musique vient du silence. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et il n'y a pas de musique s'il n'y a pas de silence. C'était tellement long et tellement extraordinaire.
Mais c'est beau rien que quand vous en parlez, alors c'est dire si le moment a dû être fort. Merci beaucoup Christophe Mongou de nous avoir expliqué un petit peu le rôle du chef d'orchestre et grâce à vous, on ne regardera plus jamais les chefs d'orchestre de la même façon. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonne fin de soirée à vous, au revoir.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Jusqu'à 22h, la musique classique est au cœur de nos discussions sur France Bleu avec ceux qui la pratiquent, un peu, beaucoup, tout le temps. On a eu un chef d'orchestre pour ouvrir cette émission et nous allons continuer en musique avec un instrument qui parfois fait un petit peu peur parce qu'il est réputé comme un des plus difficiles à maîtriser. C'est le violon. Nous allons accueillir une violoniste, Fabienne, qui nous a rejoint depuis le Cher. Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Vanessa.
Le violon, je le disais, considéré comme un des instruments les plus difficiles à maîtriser, c'est vrai ?
Oui, en tout cas pour la première année, oui, je pense que effectivement, c'est pas forcément évident, mais après, je pense que c'est comme n'importe quel autre instrument.
Alors justement,
mais c'est vrai que sa réputation n'est pas
surfaite. Ça peut faire peur. Mais justement, qu'est-ce qui vous a amené au violon ? C'était une envie que vous aviez toute petite ou c'est en essayant plusieurs instruments ?
Alors en fait, je pense qu'il faut une bonne dose d'inconscience. Bon, moi, j'étais extrêmement jeune. Quand j'ai découvert la musique, il y avait un piano à la maison. Mes parents connaissaient un ami qui connaissait lui-même un professeur de violon qui avait lancé sa propre école. Et donc, ils m'ont amené à lui. Ce monsieur m'a montré un orchestre avec des enfants qui jouaient. C'était la première fois que j'en voyais. J'avais à peine 5 ans. Il a discuté avec moi. Après, il m'a dit, voilà, choisis ce que tu veux faire. Et j'ai dit, je veux faire ça. Et donc, à 5 ans et demi, j'ai commencé le violon.
C'est génial.
Donc, je pense que j'ai eu un coup de cœur pour l'instrument, mais à l'époque, sans du tout avoir conscience de ce que ça allait impliquer.
Il y a eu des moments où ça a été compliqué, je pense notamment à l'adolescence. C'est pas toujours évident de garder cette passion, cette envie de travailler aussi le violon.
Alors effectivement, c'est à l'adolescence que ça devient moins magique parce qu'on prend un peu plus conscience des choses. Et puis les professeurs sont plus exigeants. Nous-mêmes, on est beaucoup plus conscients qu'il faut travailler. Il y a des défauts à corriger. Il y a des moments où on bloque sur des passages. Donc l'envie, elle est toujours là. Mais la patience n'est pas forcément au rendez-vous. On n'y croit pas forcément. On passe des moments pénibles. C'est des fois un petit peu long. Mais ce qui est complètement inouï sur cet instrument, c'est que quand enfin le problème est résolu et que ça se décante, au lieu de se dire « ah bah, il était temps », on s'émerveille et on prend ça comme un cadeau.
Une fois qu'on le maîtrise, oui, ça doit être formidable.
Alors, maîtrise, oui, en sachant que quand même, on n'a jamais totalement acquis, quoi. Le jour où on se dit « ça y est, j'ai fini d'apprendre », on n'apprend plus, on progresse plus.
Ah,
mais
oui.
les moments où voilà, les problèmes sont résolus, les endroits où on ne bloque plus, les défauts sont corrigés, c'est quand même des mini sensations de victoire sur soi. Donc c'est quand même génial. Puis il y a tous ces petits moments de grâce quand on arrive à bien jouer un passage sur un plan musical, qu'on l'entend enfin à l'extérieur comme on l'a conçu dans sa tête, ça
c'est
donne
magique,
des frissons.
Ouais.
Ah oui, c'est magique.
Aujourd'hui, vous êtes violoniste professionnel. Comment on vit de son art et de sa passion? On se dit, est-ce qu'il y a un parcours, on va dire, classique, ou est-ce que c'est aussi parfois des rencontres, des opportunités?
Alors, il y a d'abord, évidemment, avant tout, un parcours classique qui se déroule en bonne partie dans un conservatoire. Donc, on fait un cursus d'études avec un cursus d'études, on va dire, supérieur. Voilà, moi, à l'époque, ça s'appelait la médaille d'or. Maintenant, ça s'appelle DEM et perfectionnement. Et puis, progressivement, à l'intérieur de ce cursus, les professeurs nous testent de temps en temps sur le terrain, nous mettent le pied à l'étrier en nous envoyant faire des concerts dans des orchestres qui ont besoin de jeunes. Il nous propose quelquefois aussi de donner des cours à des petits. Donc en fait, on nous met le pied à l'étrier souvent très tôt, avant même que le cursus d'études soit fini. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. À 19 ans, j'avais un double statut. J'étais à la fois étudiante, j'avais pas tout à fait fini mes études, mais je commençais déjà à gagner ma vie en faisant des concerts dans des orchestres et en donnant des cours.
Et aujourd'hui, vous en donnez des cours toujours? Vous combinez les deux?
Je combine les deux, toujours.
C'est important pour vous, cette transmission?
C'est vital. C'est formidable parce qu'on a l'impression d'un long fil conducteur. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs formidables qui m'ont enseigné, qui m'ont transmis leur amour de la musique et de l'instrument. Et à mon tour, de pouvoir, depuis maintenant presque 30 ans, transmettre ce que j'ai appris à mes petits, que je vois en plus grandir, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Vous avez encore le temps de jouer, rassurez-moi Fabienne, notamment dans des orchestres?
Oui, je vous rassure.
Oui, ça va.
Le temps, oui, je l'ai, je le garde. Il faut pouvoir tout faire. C'est important de transmettre, mais c'est important aussi, effectivement, de se garder du temps pour soi et de continuer à jouer dans des orchestres. Parce que ce n'est pas la même façon de vivre la musique.
Comment vous faites pour donner envie aux plus jeunes, notamment, de ne pas abandonner le violon en cours de route? On parlait tout à l'heure de l'adolescence. C'est quoi votre petit truc à vous pour transmettre cette flamme?
Alors, on parle beaucoup. Ils ont confiance en moi, donc je pense que sans la confiance, rien n'est possible. Donc, quand je sens le désarroi, que je sens qu'ils sont en période de doute, je leur rappelle que, avant d'être un prof, j'étais moi aussi une violoniste, une ado qui était en plus pas toujours très obéissante ni très travailleuse, et que voilà, moi aussi je suis passée par ces caps-là, et puis voilà, ce sont des caps
ça
qui
passe toujours beaucoup mieux quand on a le prof qui a vécu la même chose, effectivement. Merci beaucoup Fabienne d'avoir été avec nous sur France Bleu ce soir et de nous avoir fait partager un petit bout de votre quotidien et surtout de votre passion, parce que ça s'entend vraiment. À bientôt.
Merci beaucoup à vous, Vanessa.
Merci, au revoir.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
La musique classique, c'est le sujet dont se dit tout jusqu'à 22h avec vos histoires, vos témoignages, vos idées pour faire en sorte que la musique classique soit partout et pour tout le monde. Et pourquoi pas même pour les tout petits-petits. C'est ce que fait la compagnie Musique Éveil à Nantes. Et on va en parler avec Marine qui est avec nous sur France Bleu. Bonsoir Marine.
Bonsoir Vanessa.
Vous êtes pianiste et chanteuse de formation classique. Comment vous avez eu l'idée et l'envie surtout de vous adresser aux tout petits?
Alors en fait, l'idée au départ déjà était de sortir l'enseignement, la transmission de la musique du cadre des structures d'enseignement musical, des écoles de musique dans lesquelles j'étais particulièrement, et donc d'aller à la rencontre d'autres publics. Et en fait, on s'est rendu compte que on pouvait être un public dès la naissance, parce que la musique, c'est quelque chose qui provoque des émotions dès qu'on est tout petit. Et c'est de là qu'est partie l'idée de s'adresser vraiment aux tout petits.
Alors, ils y sont sensibles, les bébés, à la musique classique, ou est-ce qu'il faut l'adapter pour eux? Ou est-ce que finalement, on peut se dire, tiens, n'importe quelle musique, ça va les attirer, quel que soit le compositeur, quelle que soit la musique?
Je pense que n'importe quelle musique peut les attirer. Après, la musique classique est très riche en mélodies simples et qui leur parle beaucoup. On se rend compte que finalement, je pense qu'on a tous chanté au moins une fois l'alphabet sur « À vous dirai-je maman » de Mozart, ou Frère Jacques est tiré extrait d'une symphonie de Mahler. Donc c'est vraiment des mélodies très simples et qui sont parlantes particulièrement parlante pour eux, je pense.
Et est-ce qu'il y a des instruments qui ont plus de succès que d'autres chez les enfants ?
Alors, les gros instruments par leur taille, la contrebasse a toujours un gros succès. Et après, beaucoup les percussions, parce que c'est la première chose qu'a envie de faire un tout petit, c'est d'aller taper. Donc, ça permet de les rendre acteurs
approche.
De cette musique.
Ouais. Ouais. Vous êtes à Nantes, une ville qui est connue pour son festival de musique classique, la Folle Journée. Et vous y étiez à la Folle Journée, vous avez fait de la musique avec les enfants pendant le festival.
Oui, c'est ça. On est allé dans des crèches nantaises pour justement les sensibiliser à la musique classique dans plusieurs quartiers populaires de Nantes.
Et ça a marché, ça a cartonné, je suis sûre.
Ça a beaucoup plu, on a pris énormément de plaisir et les retours ont été très positifs.
On se demande souvent, un enfant qui écoute très tôt de la musique, est-ce qu'il aura des capacités peut-être à en jouer plus tard ? Ça joue dans l'apprentissage, le fait d'écouter déjà, d'avoir une oreille musicale ?
Je pense que ça joue dans tous les apprentissages, pas que l'apprentissage de la musique.
Ouais.
La musique, ça aide à développer la mémoire notamment, et la mémoire est très utile pour tout type d'apprentissage.
On se pose souvent la question, quand on est parent, de savoir si on doit emmener nos enfants à l'opéra, si on doit les emmener à des représentations classiques. Vous en dites quoi, vous qui êtes habitué à voir des enfants au spectacle, mais pour les petits, est-ce qu'on peut mélanger les publics aussi à un moment donné ? Est-ce qu'un enfant, on peut l'emmener à l'opéra ? Est-ce qu'on peut l'emmener à un spectacle de musique classique ?
À l'opéra, ça sera trop long pour lui. Souvent, ce qui bloque, en fait, c'est la durée des représentations, et ce qui a fait que la musique classique a été très longtemps, je pense, fermée aux petits, c'était que justement les propositions étaient rarement inférieures à 1h30, 2h de spectacle,
ouais.
Et c'est trop long. Mais c'est d'ailleurs ce que c'est de faire la Folle Journée en réduisant les temps de concert pour attirer plus de public, et je pense que on peut les amener, mais à des formules courte quand même.
Ouais. Et c'est ce que vous faites, vous faites des spectacles sur mesure, justement, adaptés aux âges des enfants.
Oui. Oui, c'est ce qu'on essaie de proposer avec la compagnie.
Et genre, par exemple, si là, il y a des parents qui nous écoutent avec des petits bouts de 6 mois, on peut là aussi imaginer qu'il y a des spectacles pour eux. Vous en faites pour les bébés aussi?
Ah oui, on en fait à partir pour les 0-3 ans.
C'est génial. C'est super ça. Est-ce que vous avez vu grandir des petits que vous avez initiés à la musique et qui aujourd'hui tapent sur des percus mais en école de musique par exemple, ou font déjà d'un instrument ?
Notre compagnie est trop récente pour les avoir menés de tout petits. J'en ai vu à partir de 3-4 ans. Maintenant, ils pratiquent un instrument.
Ce sera dans 10 ans alors. Dans 10 ans,
voilà,
vous aurez des grands musiciens qui sont passés par la compagnie et qui sont passés par vos spectacles. Merci beaucoup Marine d'être venue
Merci
nous parler de l'éveil musical à la musique classique pour les tout-petits. C'est vraiment passionnant. Et on vous souhaite encore plein de beaux spectacles et plein de petits yeux émerveillés encore une fois.
Merci beaucoup.
Merci, bonne fin de soirée.
Bonne émission.
Merci, au revoir.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Et ce soir, on parle de musique, et plus particulièrement de musique classique. On a eu un chef d'orchestre, une violoniste, une pianiste qui fait de la musique classique pour les tout-petits. Et c'est maintenant un musicologue qui va nous rejoindre. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir à tous.
C'est quoi exactement être musicologue ? Ça veut dire qu'on connaît toute la musique, toutes les musiques, ou est-ce qu'on a une spécialité ?
Le musicologue, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la musique à travers différentes formes, soit sur l'histoire de la musique, soit sur la théorie de la musique, ou encore sur la pratique de la musique. Donc il peut y avoir plusieurs facettes.
Mais ça veut dire que vous devez tout connaître à la base.
Il faut connaître quand même, oui, pas mal la musique, c'est-à-dire plutôt être instrumentiste, et puis après avoir fait des études sur l'esthétique de la musique, la philosophie de la musique, et puis bien sûr tout l'aspect théorique de cette musique.
Alors savoir, c'est une chose, transmettre en est une autre. Et vous avez décidé de parler différemment de la musique, et notamment de la musique classique.
Tout à fait, en fait, j'ai inventé un concept de conférence musicale qui est destiné à tous les publics, donc vraiment à des mélomanes ou non-mélomanes, des petits, des plus âgés. Et l'idée, c'est de présenter à travers une thématique les grandes périodes de l'histoire de la musique.
Et ça intéresse tout le monde ?
Tout à fait. À ces conférences, il y a des élèves des conservatoires, il y a les frères ou les sœurs de ces élèves qui ne font pas de musique et que j'essaie d'attirer vers cette musique classique. Et puis, il y a les parents à qui il faut apporter également quelques éléments importants pour comprendre cette grande musique.
Comment vous faites pour les intéresser, pour les capter? Je pense notamment à des gens qui n'ont pas forcément cette culture de la musique classique. Comment vous faites pour se dire, bah tiens, on va aller à cette conférence, ça m'intéresse, alors qu'a priori, on n'a pas forcément le background avec les connaissances?
Alors en fait, l'idée, c'est de proposer différents thèmes variés. Ça peut être, par exemple, parler de la nature, parler de la gastronomie, et j'essaie de rapprocher cette nature à la musique ou encore de la gastronomie à la musique et essayer de proposer un savoureux assortiment.
Par exemple, la gastronomie et la musique, comment vous les reliez, les deux?
Alors en fait, il y a plein d'éléments qui peuvent être illustrés. On pense déjà à quelques plats qui peuvent être en lien direct. Le tourne-dos Rossini, par exemple, qui fait référence avec le compositeur, ou la poire Belle Hélène pour le grand succès de la Belle Hélène d'Offenbach. Et puis, entre musiciens, on parle souvent de musique sucrée, par exemple, quand on évoque l'opéra Faust de Gounod ou encore Roméo Juliette. On parle des harmonies acides de Prokofiev dans son ballet L'amour des trois oranges. Donc il y a aussi un rapport avec le sucré, le salé, l'amertume, par exemple, dans la musique.
C'est génial, ça. Alors vous aimez décortiquer, expliquer la musique. Est-ce qu'il vous reste du temps pour en jouer de la musique?
Oui, tout à fait. En fait, dans mes conférences, j'essaie de me mettre au piano et montrer les exemples moi-même en décortiquant justement cette musique, en l'analysant assez simplement, sans utiliser de termes trop complexes, pour que tout le monde puisse comprendre.
Vous prenez plus de plaisir à expliquer la musique qu'à la jouer? Si aujourd'hui on vous disait, bon bah Nicolas, c'est fini les conférences, tu vas faire des concerts, tu vas donner des concerts, ça vous plairait?
Ça me plairait, oui, bien sûr, mais je pense que j'ai cette passion pour transmettre. Bon, à la base, je suis professeur, donc la pédagogie m'intéresse beaucoup, mais j'aime faire découvrir, j'aime voir dans les yeux des enfants des petites lumières quand on leur fait découvrir des choses, les adultes, pareil. Donc je trouve ça vraiment intéressant de transmettre et de montrer, d'expliquer. C'est vraiment quelque chose qui me passionne.
Alors, je vais vous poser une question difficile. C'est une colle. Le meilleur musicien de tous les temps pour vous, c'est qui, Nicolas?
Je dirais Richard Wagner.
Ah oui, c'est catégorique, c'est rapide comme réponse. Hein.
Ah oui, en fait, Richard Wagner, c'est un compositeur qui synthétise toutes les époques. Évidemment, Bach, c'est un génie absolu. Mozart est un grand génie indiscutable. Mais je pense que Wagner a compris Bach, a intégré Bach. Il a compris Mozart également, Beethoven. Et il va donner en fait la route pour les Debussy et jusqu'à Luciano Berio dans les années 2000.
Wagner en cuisine, ce serait quoi alors?
Wagner en cuisine, ça serait quelque chose d'assez roboratif, je pense, assez dense, mais quand même avec l'amertume, le sucré, le salé, peut-être un canard laqué, quelque chose d'extrêmement goûteux.
C'est génial. C'est vraiment génial de vous entendre parler de musique et avec des mots que tout le monde comprend et des références que tout le monde connaît aussi. C'est ça qui est assez génial. Merci beaucoup, Nicolas, d'être venu nous parler de votre passion. Et on entend que vous êtes un passionné. Et c'est quand les prochaines conférences? Est-ce qu'on peut donner comme ça quelques pistes?
Eh bien, par exemple, la semaine prochaine, je ferai une conférence autour justement de la gastronomie et la musique au conservatoire du 8e arrondissement à Paris.
C'est à Paris, donc il va falloir bouger dans toute la France, hein, on vous soutiendra, j'espère.
Avec grand plaisir.
Bonne fin de soirée, Nicolas, merci beaucoup.
Merci, pareillement, et bonsoir à tous les auditeurs. Merci, au revoir.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu, avec Vanessa Lambert.
Et jusqu'à 22h, on se dit tout sur la musique classique, parfois très loin des images qu'on a pu s'en faire, ou qu'on a bien voulu nous faire d'ailleurs. Heureusement, vous êtes là pour nous en parler. On écoute vos parcours, vos histoires, vos coups de cœur, et c'est une chanteuse d'opéra qui nous a rejoint depuis la Belgique. Bonsoir, Pauline.
Bonsoir.
Alors vous faites des études d'histoire et puis finalement vous êtes chanteuse d'opéra.
Oui, c'est ça. Je me suis rendu compte en fait assez vite que le chant c'était vraiment ma passion. J'étais à l'université, je sentais qu'il y avait, enfin ça se passait bien, mais je sentais qu'en fait il y avait quelque chose qui m'appelait d'autre et c'était le chant. Voilà.
Mais comment, alors, entre l'envie de chanter, le plaisir de chanter, comment on devient chanteuse d'opéra? Comment on découvre sa voix aussi, parce que c'est très particulier?
Je pense que les parcours sont vraiment tous très différents. Moi, dans ma famille, en fait, il n'y avait pas vraiment de musiciens. Donc, tout s'est fait un peu par des concours de circonstances. J'aimais bien chanter. J'avais une voisine qui habitait en face de chez moi, qui était professeure de musique pour les enfants. Et donc, elle m'a emmenée à l'académie. Elle a proposé ça à mes parents. Ils ont dit oui. Mmh. Et là, j'ai commencé le violon. J'en ai fait pendant 10 ans. Puis, j'ai arrêté. Enfin, je veux dire, j'ai fini à l'académie. Et là, enfin, moi, ça me traversait pas du tout l'esprit de faire une carrière de musicienne ou de chanteuse. Et donc, j'ai commencé l'université dans la matière que je préférais, l'histoire. Et puis là, en fait, j'ai une amie qui m'a proposé de rejoindre une chorale. Et pour qu'on se voit plus, tout simplement.
À la base, c'était ça, pour être avec votre copine.
C'est ça, vraiment. Donc voilà. Et bon, c'est vrai que j'avais fait tout mon solfège, j'avais déjà chanté avant, mais jamais de cours de chant. Voilà. Pour moi, c'était un peu. L'idée, c'était que le chant, c'est naturel, et donc il n'y a pas du tout besoin de travailler ça, voyons. Et donc voilà, j'ai rejoint cette chorale avec mon amie. Et là, en fait, ça se passait au conservatoire de Liège. Donc on répétait dans les locaux du conservatoire. Et donc j'ai un peu eu l'occasion d'entendre des gens travailler là-bas. Et surtout, la chef de chœur, en fait, est une professeure de méthodologie au conservatoire de Liège. Et elle m'a proposé de faire des solos. Parce qu'elle trouvait que ma voix était jolie.
Et là, vous vous dites, mais bien sûr, on y va, ou vous avez un petit peu peur, parce qu'entre chanter dans une chorale et se retrouver seule, c'est différent?
Bah, je crois que j'ai foncé. Non, j'aimais vraiment, vraiment beaucoup ça.
Vous aviez quel âge à l'époque, Pauline?
Je devais avoir 19 ou 20 ans.
Ouais, oui, d'accord.
Oui, moi, je n'ai pas commencé très tôt. Et donc, de là, en fait, après quelques concerts, et des gens venaient me trouver après les concerts et m'ont dit « Mais vous prenez des cours de chant ?» Moi, j'ai dit « Non !» Et en fait, parallèlement à ça, il y avait une chose que j'avais très envie de faire et de découvrir, c'était le répertoire de la musique baroque. J'avais été fort touchée par un film quand j'étais plus jeune, c'était « Le roi d'Anse », et dans lequel on peut entendre beaucoup de répertoires baroques, notamment le répertoire de Lully. Et donc, en fait, de là, avec ces réflexions des personnes qui m'entendaient et aussi l'envie de faire quelque chose d'assez particulier, qui ne pouvait pas se faire vraiment dans sa baignoire, dans sa salle de bain, je me suis dit, je vais essayer de trouver un professeur qui peut m'enseigner la musique baroque.
Et c'est là, comme ça que c'est parti, vraiment.
Exactement, ouais. Oui, vraiment.
Et là, vous avez découvert aussi que la voix, ça se travaillait, puisque forcément, vous dites au début, ça s'est fait un peu naturellement, je ne prenais pas forcément de cours non plus. Là, ça change quelque chose quand on passe de l'autre côté? On
oui,
se dit, c'est
fait.
Vraiment un autre instrument qu'on travaille?
Oui, en fait, l'instrument reste le même, mais ce qui change énormément, c'est l'exigence du répertoire. Il y a une énorme différence entre chanter un peu où on veut, une mélodie, je veux dire, où on veut dans le sens à la hauteur qu'on veut, avec les notes qu'on veut, une mélodie dans sa salle de bain, et puis on se retrouve devant une partition où c'est écrit, où il faut chanter exactement comme c'est écrit,
oui.
En tout cas avec les balises de l'écriture musicale. Et là, bien sûr, on est face à des challenges et on doit changer des choses
et
dans
oui.
sa voix naturelle.
Il n'y a pas d'improvisation quand on est chanteuse d'opéra comme vous?
En fait, dans le répertoire baroque, si. Il y a ce qu'on appelle l'ornementation. Donc souvent, dans un aria baroque classique, il y a une partie A, une partie B, et puis un retour à la partie A. Et il est de mise de ne pas rechanter exactement la même chose. Mmh. Donc on va ornementer.
Et c'est joli ce mot, ornementer.
Oui, ouais. J'aime beaucoup. Ces ornements, en général, bon, souvent on les travaille à l'avance, mais on peut aussi les improviser complètement.
D'accord. Et aujourd'hui, vous chantez où et vous chantez pour qui alors, Pauline?
Donc moi, à la suite donc de cette expérience à la chorale, j'ai fait des années d'académie, puis je suis allée au conservatoire de Liège et de Bruxelles. Puis, maintenant, je suis à l'Opéra Studio de Gand. C'est ma deuxième année. Et donc là, je viens d'aller chanter, grâce à eux, une production en Espagne, à Oviedo. J'ai chanté dans Rigoletto, le rôle de la Contessa de Ceprano et le rôle de Giovanna. Ça, c'était une expérience fantastique, puisque j'ai vraiment vécu ce que c'est d'aller dans une production à l'étranger, d'être seule. De faire face à des chanteurs qui sont extraordinaires, vraiment ça c'était incroyable et voilà, et de devoir défendre ce qu'on est capable de faire à ce moment-là aussi. Hein.
Et le plaisir, il est à quel moment? C'est quand on vous propose un projet, c'est quand vous le travaillez, c'est le jour J sur scène?
Ah, c'est un peu tout. Je dirais que en fait la musique pour moi c'est un mélange de plaisir en permanence, mais aussi un mélange de de challenge, de peur. Je pense que le plaisir, il réside en fait à se dépasser, à dépasser sa peur, à dépasser la peur, quand je dis la peur, c'est pas seulement la peur de chanter devant les autres. Ça, c'est quelque chose que petit à petit, on apprend vraiment à... Enfin, c'est plus vraiment ça, c'est plus la peur de... Voilà, il faut se dépasser, il faut faire mieux que ce qu'on a fait, il faut faire en tout cas aussi bien que ce qu'on est capable de faire chez soi, dans son laboratoire. Et il faut proposer quelque chose d'unique et surtout quelque chose de vrai sur le moment. C'est-à-dire que si on est dans ses peurs, on peut pas proposer quelque chose de vrai par rapport à son personnage, par rapport à la situation. On est en soi. Alors que pour moi, la magie, c'est de ne plus être en soi d'une certaine façon. C'est quelqu'un d'autre est en moi. Je ne suis plus moi.
C'est incroyable, c'est passionnant tout ce que vous nous racontez, Pauline, vraiment. Et on découvre l'autre côté, parce que quand on est spectateur, on se dit bah oui, c'est du travail, c'est beaucoup de travail, mais on se rend pas compte de tout ce qui se passe aussi intérieurement. Et grâce à vous, on a ouvert un petit peu cette porte. Merci beaucoup, Pauline, d'avoir été avec nous sur France Bleu, et on vous souhaite une très grande carrière de chanteuse d'opéra. Alors.
Avec grand plaisir. Merci.
Merci. À bientôt.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Et jusqu'à 22h, on se dit tout, fait la part belle à la musique classique. On a eu des musiciens, une chanteuse d'opéra et c'est maintenant un professeur qui nous a rejoint, Laurent, en région parisienne. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Vanessa.
Alors vous enseignez dans des collèges et des lycées, mais à des élèves qui ont déjà fait le choix de la musique. Ça a l'air plus facile quand même.
Oui, enfin j'ai aussi des élèves qui n'ont pas la musique en option. Donc j'ai effectivement des classes un peu plus spécialisées qu'on appelle des classes CHAM, classes à horaire aménagé musique et danse.
D'accord. Mais vous avez aussi des élèves qui sont obligés entre guillemets de faire de la musique.
Obligés, oui. Enfin ça fait partie
de l'enseignement.
L'enseignement des programmes d'éducation nationale. Oui, tout à fait.
Mais comment on fait pour donner envie d'aimer la musique, notamment la musique classique aux plus jeunes?
Bah écoutez, d'abord il faut leur faire entendre que ça fasse partie un petit peu de leur univers par imprégnation. Ensuite il faut trouver des images, des choses qui leur parlent. Par exemple, j'entendais parler là tout à l'heure d'une symphonie de Mozart. On peut travailler sur l'émotion que peut susciter la musique. Alors bien sûr, quand on a affaire à des élèves non spécialistes, on peut comparer avec une chanson, par exemple, une chanson qui va leur parler plus immédiatement, et ensuite on passe au niveau de la musique classique.
Oui. Et vous préférez quoi, vous? Donner des cours à des élèves qui déjà veulent partir sur un cursus musical ou au contraire essayer de susciter de l'intérêt pour la musique avec des élèves qui, a priori, viennent entraînant un peu les pieds?
Bien, les deux. Parce qu'avec les uns, on peut effectivement d'abord les amener quelque part. Enfin, les spécialistes, on peut toujours les amener beaucoup plus loin et développer des projets en profondeur. Avec des enfants qui sont moins sensibilisés à la musique, on peut aussi développer des choses qui sont très intéressantes. Par exemple, en ce moment, on travaille avec deux classes de troisième sur un projet Roméo et Juliette, et ils m'ont écrit des chansons qui étaient plus que valable. Et là, on est en phase d'enregistrement et c'est très intéressant.
C'est génial, ça. Alors, vous nous avez dit aussi que vous donnez des cours pour des classes à horaires aménagés. On commence à quel âge? À partir de quel âge on peut se dire, tiens, je rentre vraiment dans une filière scolaire musicale?
Alors, une filière scolaire musicale, alors théoriquement depuis le primaire, dans les faits, c'est surtout à partir du collège, de la sixième, que certains collèges, en général, en partenariat avec le conservatoire local, propose donc ces classes horaires aménagées, musique et danse.
D'accord. Et la masse de musique, en termes d'horaire, ça correspond à quoi?
Eh bien, chez nous, on est à peu près à 3 heures par semaine. 3 heures par semaine, bon, entre la culture musicale, un peu de technique, et puis le chant. Enfin, le chant est très fédérateur et permet donc de faire travailler tout le monde. Et puis on a éventuellement, pour les plus entraînés, on a également des sessions d'orchestre.
Et après au lycée, ça continue? C'est encore
alors,
plus d'heures?
Alors au lycée, vous avez les options, qu'on appelle les options musique, donc plus ou moins lourdes. Soit on est dans une filière générale scientifique, économique, et on va prendre une option facultative. soit on est dans une filière littéraire, et bien dans ce cas-là, on peut prendre ce qu'on appelait avant l'option lourde, avec un coefficient 6 au bac, 5 ou 6 heures de musique par semaine.
Quand même, ouais.
c'est sérieux. Là.
Ça doit pas être évident quand même, j'imagine, un élève qui est passionné par la musique, qui a pris justement cet enseignement musical, de se concentrer sur les autres matières. Comment vous faites avec vos collègues professeurs qui enseignent le français, les maths, l'anglais par exemple, pour essayer de motiver les élèves en leur expliquant que la musique c'est bien, mais il n'y a pas que ça?
Ah mais ils se posent pas la question, parce que de toute façon, alors au niveau du collège, c'est une option qui est après ils doivent travailler également le français, les maths, etc., le sport, c'est à égalité. Au lycée, si c'est l'option à coefficient 6, ils ont également le français qui est à coefficient 7, la philo, etc. Donc ils font vite leur calcul eux-mêmes.
Vaut mieux le calculer d'ailleurs à l'avance.
Comme on a tous fait d'ailleurs.
Vous avez plein de projets, je crois savoir, Laurent, des projets à l'étranger notamment.
Oui, alors ça c'est pas. Alors on a développé des projets à l'étranger dans le cadre européen avec les élèves. Donc c'est à l'époque on appelait ça des projets Comenius. On collaborait avec des écoles de différents pays d'Europe élargie, puisqu'on a travaillé aussi avec la Turquie. Là actuellement je développe plutôt des projets culturels avec mes classes de 4e et de 3e. Par exemple cette année on est sur les traces de Mozart, donc on est allé à Vienne, on est allé à Prague, et puis on va monter un petit spectacle autour de ça.
J'aurais adoré vous avoir en prof de musique.
Oh.
Vraiment, hein. J'ai pas été gâtée moi au collège à l'époque.
Peut-être que les élèves ne disent pas tout ça, parce que bon, il y a aussi de l'exigence.
Non, mais c'est normal, mais l'exigence et la qualité qui va avec, c'est un joli mélange, je trouve. Merci beaucoup Laurent d'avoir été avec nous ce soir sur France Bleu, et on vous souhaite plein de beaux projets encore avec vos élèves.
Merci beaucoup Vanessa.
Merci, au revoir.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
La musique classique, c'est le sujet d'On se dit tout, et on écoute vos histoires, votre passion surtout, et du coup c'en est passionnant jusqu'à 22h. Et c'est un flûtiste qui est avec nous, Tristan de Paris. Bonsoir Tristan.
Bonsoir Vanessa.
Flûtiste, ça veut dire donc que vous faites de la flûte. C'est quel genre de flûte d'ailleurs? Parce qu'il y a flûte et flûte en musique classique.
Tout à fait. Alors c'est pas de la flûte avec comme on a fait au collège. On y fait parce que maintenant il paraît que c'est enseigné d'ailleurs.
C'est interdit ça maintenant.
Ouais, voilà,
J'aime bien dire interdit.
Bon, c'est peut-être pas plus mal au final, mais bon, peu importe, c'est pas le sujet. Moi je fais de la flûte traversière en fait. Donc c'est une flûte sur le côté. C'est les flûtes qui sont dans les orchestres symphoniques, mais qui sont aussi présentes dans le jazz et dans plein de styles de musique.
Comment vous êtes arrivé à la flûte traversière? Je me suis toujours demandé comment on choisissait son instrument pratiquement pour la vie d'ailleurs.
Quand j'étais petit, j'ai vu un orchestre à la télé. Et oui, à l'époque, il y avait encore des orchestres à la télé aussi. C'est quelque chose qui a un peu changé.
Ouais.
j'ai repéré cet instrument dans l'orchestre sans vraiment m'entendre le son, mais c'est l'instrument,
beau.
L'esthétique de l'instrument qui m'a attiré.
Il est beau et puis on a l'impression que ça bouge tout seul.
Voilà, et ça brille. Et
voilà. Ça. Alors, entre craquer en regardant un orchestre à la télé et passer de l'autre côté, de l'apprentissage aussi, la première fois que vous avez eu une flûte traversière dans les mains, vous aviez quel âge alors?
J'avais 6 ans.
Ouais.
Ouais, j'avais 6 ans, et d'ailleurs, la première fois, ça s'est pas très très bien passé. Si je m'étais arrêté à la première expérience avec la première prof que j'ai eue, je pense que ça serait arrêté là. Mais ma mère a eu l'intelligence de me faire essayer de prendre des cours ailleurs avec quelqu'un d'autre, et c'est là où il y a eu l'accroche, vous avez accroché pour la première fois.
D'où l'importance du pédagogue, du prof, de l'enseignant.
Oui, ouais. Tout à fait.
Aujourd'hui, vous êtes musicien professionnel?
Oui.
Vous vivez de votre musique alors?
Oui, je suis intermittent du spectacle en fait.
C'est quoi votre quotidien? Ça ressemble à quoi une journée classique, on va dire, de travail?
Une journée classique de travail, une journée où je vais aller travailler pour un orchestre, peu importe l'orchestre. En général, ça va être du 10h-13h et du 14h-17h pour les répétitions. Voilà, je me lève le matin, je prends un café comme tout le monde, je pars au boulot, je m'assis sur ma chaise d'orchestre, je regarde les partitions et c'est parti pour une répète. Et voilà, une petite pause le matin et aussi une pause à midi et une petite pause l'après-midi. Voilà.
Vous êtes intermittent du spectacle, vous dites je travaille pour plusieurs orchestres, ça veut dire qu'il n'y a pas cette habitude non plus de travailler toujours avec les mêmes personnes dans les mêmes styles de musique?
Alors, pour le style de musique, je travaille essentiellement, de la musique classique. Donc, voilà, souvent c'est des formations, soit musique de chambre, soit orchestre symphonique, soit orchestre classique, soit orchestre de chambre. Mais en général, je fais pas de jazz, par exemple, je fais pas de musique actuelle, même si c'est quelque chose qui me déplairait pas, mais c'est un peu, comment dire, quand on est dans un cercle, on n'en sort pas trop, quoi.
Mmh. Oui, c'est comme un sportif de haut niveau aussi. À un moment donné, on s'entraîne pour une certaine compétition, on ne va pas s'entraîner pour toutes les compètes.
C'est ça. Et en plus, ça demande une certaine exigence au niveau de la qualité du son. Et comment dire, on n'a pas la même esthétique de son en musique classique et en jazz, par exemple, pour le faire. Mmh.
Mais ce n'est pas compliqué de changer d'orchestre, de changer sans arrêt. Le fait d'être intermittent, c'est aussi la contrainte des intermittents.
Bah, tout à fait, parce que en plus, on est tout le temps un peu observé, jugé, parce que on nous rappelle si on joue bien, en fait. C'est pas comme quelqu'un qui est titulaire dans un orchestre. Nous, faut vraiment qu'on soit tout le temps au top de notre niveau instrumental pour que les gens soient satisfaits et qu'ils veuillent nous rappeler pour qu'on ait du boulot, en fait.
Et être titulaire dans un orchestre, ce serait l'idéal pour vous?
Oui, tout à fait. Mmh. Bah, d'ailleurs, en ce moment, je suis en déplacement à Lille pour faire un concours de flûte solo à l'orchestre de l'Opéra de Lille.
D'accord. Voilà. J'espère que ça va marcher, alors, du coup. Hein.
Bah, c'est gentil, merci.
Est-ce que c'est facile aujourd'hui de vivre de la musique?
C'est pas évident. Bon, déjà, il n'y a pas une tendance à la création d'orchestre, à la création de postes, c'est plutôt le contraire. En France, on a une très bonne école de flûte traversière. Il y a la classe du CNSM de Lyon et du CNSM de Paris. D'ailleurs, là où j'ai fait mes études au CNSM de Paris, c'est des très bonnes classes de flûte, et même à travers l'Europe. Et il y a beaucoup, beaucoup de flûtistes. Et donc, les places sont chères et c'est pas évident d'obtenir un poste de titulaire dans un orchestre.
Tristan, aujourd'hui, quand vous faites de la musique, le plaisir, vous l'avez à quel moment en particulier? C'est quand on vous propose un nouveau projet? C'est quand vous le travaillez pour avoir le son parfait? C'est le jour J en représentation?
Bah, tous ces moments-là, en fait. Hein. Je pense que, le moment où le téléphone sonne, on nous propose un projet intéressant, le moment où on se retrouve sur la chaise, la première répète, qu'on peut voir aussi des amis qu'on n'a pas vu depuis longtemps, avec qui on prend du plaisir à jouer, et un chef agréable en face qui nous procure du plaisir à nous diriger. Il y a plein de moments dans la musique classique, c'est ça qui est génial aussi. Même si c'est dur, c'est quand même un métier passion, et du coup c'est ça qui nous fait aussi rester là-dedans, quoi.
Vous parliez des amis musiciens, on reste toujours un petit peu dans le même cercle d'amis liés à la musique, ou alors vous pouvez partir dans des univers complètement différents, des copains qui n'ont rien à voir?
Ah bah, moi, en fait, j'ai pas fait de classe CHAM comme certains font, comme beaucoup font, en fait. Surtout dans ceux qui réussissent, en général, ils ont souvent fait des classes F1, des classes CHAM, enfin ceux qui ont le CNSM de Paris, je veux dire. C'est quelque chose qui est assez courant.
On en parlait justement avec notre professeur, justement, qui nous parlait de toutes ces classes avec horaires aménagés.
Eh oui, et ben moi, je n'ai pas fait ça. Moi, j'ai fait juste une option musique au bac. Enfin, option musique lourde quand même, qui était coefficient 8, il me semble.
Ah oui.
Je dis pas de bêtises. Mais j'ai pas fait de classe à horaire aménagé. C'est vraiment complètement différent, en fait. J'ai un parcours scolaire, normal, on va dire, entre guillemets. Et du coup, depuis ma jeunesse, c'était comme ça. Donc, tous mes amis d'enfance, c'est pas du tout des musiciens en général.
C'est pas plus mal aussi.
C'est pas plus mal.
Hein, de
comme
sortir
ça,
un petit peu.
J'ai un cercle d'amis et je peux sortir de ça un peu de temps.
Ouais, puis on n'a pas l'impression d'être encore au boulot quand on va voir les copains.
C'est vrai, mais j'ai aussi des copains qui avec qui je bosse, et ça aussi c'est sympa aussi quand même.
Les deux sont bien, les deux sont bien. Tristan, on vous souhaite plein de réussite pour ce concours à Lille, et puis merci encore d'avoir été avec nous ce soir sur France Bleu.
Eh bien, c'était un plaisir.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci, à bientôt,
au revoir.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
La musique classique, c'est jusqu'à 22h sur France Bleu. Et après avoir écouté des musiciens, un chef d'orchestre, une chanteuse d'opéra, un musicologue, un professeur de musique et une compagnie qui fait de la musique pour les tout-petits, on va aller faire du shopping. Direction un magasin de musique, on peut le citer, hein, c'est Mélomania à Paris. Et on va en parler avec Jean-Yves. Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir Vanessa.
Comment se porte le marché du disque de la musique classique? On se pose souvent la question.
Eh bien, c'est assez bien quand même. On a toujours des fidèles qui achètent des disques et qui ne se contentent pas de télécharger comme des fous pour avoir une musique un peu compressée ou qui préfère donc.
Oui, il y a une qualité
avoir
des
l'objet, avoir des disques avec des pochettes, avec des livrets explicatifs, voilà.
Il y a une qualité d'écoute importante sur la musique classique. Quand vous parlez de musique numérique téléchargée, il y a cette qualité qu'on attend aussi quand on veut écouter de la musique classique.
Oui, oui, généralement les gens sont assez exigeants, ils veulent un bon son, un bon rendu, pouvoir écouter tranquillement, ouais.
Alors, qui vient vous voir? Qui achète aujourd'hui de la musique classique? C'est des amateurs éclairés ou c'est des gens qui peuvent entrer aussi dans le magasin en disant, bah voilà, j'ai envie de me faire un peu les bases de la musique classique? C'est un peu...
Je dirais que j'ai les deux parmi mes clients quand même. Il y a des gens qui passent par hasard, qui rentrent parce qu'ils trouvent l'endroit sympa et qui veulent une espèce d'initiation à la musique classique. Ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Alors, on essaye de comprendre un peu quels sont leurs goûts. Est-ce qu'ils préfèrent écouter de la musique chantée ou du piano ou de la musique de chambre, ou etc. Et puis, j'ai aussi pas mal de gens qui sont quand même qui connaissent bien la musique classique et qui cherchent l'enregistrement
très précis,
qu'ils ne trouvent pas, etc. Et comme nous ne faisons que du disque d'occasion, nous avons beaucoup, beaucoup de choses rares, en fait, des disques qui ont disparu du circuit commercial, normal. Et donc les gens recherchent telle et telle interprétation de telle et telle œuvre, etc.
Alors
des amateurs, on va dire, assez éclairés, assez pointus.
Alors qui vend le plus? Qui sont les stars de la musique classique aujourd'hui?
Les stars.
J'ai fait exprès de dire stars.
Oui, mais les stars sont pas forcément les meilleurs, on va dire. Je ne veux pas citer de nom, mais il y a des pianistes, par exemple, très connus que nous vendons très peu parce que nos clients les trouvent insuffisants, mais qu'on voit sans cesse à la télé, par exemple. Donc les stars, je ne sais pas s'il y a des stars, il y a quelques stars.
Dans les compositeurs, alors on va dire dans les grands compositeurs.
Les grands compositeurs, il y a toujours quand même un goût depuis plusieurs années pour la musique baroque. Donc il y a beaucoup de gens, même des gens qui ne connaissent pas grand-chose à la musique classique, qui ont entendu, des œuvres de Vivaldi ou d'autres à la radio, et qui, il y a quand même toujours un goût pour la musique baroque, ça marche quand même très bien encore.
Quelqu'un qui n'aurait jamais eu de culture musicale classique, on va dire, qui rentre dans votre magasin et qui vous dit, moi j'ai envie de découvrir la musique classique, vous lui conseillez quoi au départ pour commencer? Qu'est-ce qui pourrait être une première porte d'entrée?
Tout dépend de ce qu'ils aiment. S'ils aiment le piano, par exemple, on peut leur faire découvrir quand même Chopin, Beethoven, des grands classiques, on va dire, Schubert, choses comme ça. La musique symphonique, pareil, les symphonies de Mozart, symphonies de Haydn, Brahms, Schubert, Schumann.
Ça se démode pas.
Ça se démode pas, non, pas du tout.
C'est plutôt rassurant, d'ailleurs, de dire qu'il y a des choses comme ça qui ne se démodent pas et qui restent.
Oui, l'opéra, c'est... Souvent, les gens découvrent les opéras parce qu'ils ont pris une place par hasard pour aller écouter telle ou telle chose à l'opéra. Et comme on n'est pas très loin de l'opéra Bastille, on voit les gens demandent quand même les opéras qui vont être joués. Donc, ils veulent écouter avant, se familiariser avec l'œuvre, etc.
C'est pas mal comme démarche, effectivement. Ouais. Jean-Yves, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on rappelle, donc, c'est Mélomania, votre boutique, c'est à Paris. Merci encore et bonne fin
de
soirée.
Merci à vous, à bientôt.
Au revoir.
On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
C'est pas que j'ai sommeil, mais c'est que c'est fini déjà pour On se dit tout. Merci à tous vraiment d'avoir partagé avec nous votre passion pour la musique classique. Je sais pas vous, mais moi ça m'a fait un bien fou vraiment d'en parler et ça donne envie peut-être de s'y replonger, de réécouter un petit peu de musique. On se retrouve lundi maintenant. Lundi on parlera de grossesse et d'accouchement avec souvent beaucoup de questions, pas toujours les réponses qui vont avec. Des nausées aux vergetures, de la péridurale à l'épisiotomie, c'est pas toujours génial. Vous nous parlerez de votre grossesse, de votre accouchement notamment. notamment s'il a été atypique. C'est la sage-femme Anna Roy qui sera notre grand témoin. Mardi, à fond sur la cinquantaine. Avoir 50 ans, c'est génial, paraît-il. C'est ce que nous dira notre grand témoin Hervé Ansaume qui vient de sortir le guide de la cinquantaine. La belle vie, vous sortez, vous faites la fête, vous êtes vintage en fait. Vous viendrez nous en parler mardi soir. Mercredi, nous parlerons d'un problème qui touche un couple sur 6 en France, l'infertilité, avec souvent beaucoup de questions aussi et beaucoup d'attentes avec les traitements, la fécondation in vitro, le don d'ovocytes. C'est Réjeanne Hérault qui a écrit le livre Un bébé enfin qui sera avec nous. Et puis pour jeudi, un peu de sport, du plaisir aussi avec les accros de la petite reine. Peut-être que vous êtes du genre à suivre le Tour de France, à le faire même en avance des cyclistes professionnels. Vous adorez faire du vélo, vous investissez dans les plus beaux modèles. On en parlera avec le spécialiste du vélo, Mickaël Tardu. Dans un instant, c'est Eric Bastien qui arrive pour le Top France Bleu. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et un bon week-end. Bisous.